Périgord littéraire, une émission présentée par Pierre Martial.
Aujourd'hui, Pierre Martial recevait des blogueurs spécialistes de la Charente, mais aussi de l'appellation Périgord. On va comprendre tout de suite avec la discussion qui arrive.
Bien, bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans Périgord littéraire. Alors, je dois dire qu'aujourd'hui, l'émission sera littéraire évidemment, parce que j'ai sous les yeux les formations du département de la Dordogne, mais j'ai le plaisir d'accueillir David et Loïc. C'est ça, voilà. Alors, donc, on va parler d'un sujet qui est peut-être pas trop littéraire, mais enfin, quand même, cette formation du département de la Dordogne, surtout avec la limite de l'Angoumois. Alors, il n'y a pas eu tellement de discussions à l'époque, en 1789, sur les limites du département de la Dordogne, mais je pense qu'il y en a eu encore moins pour cette limite avec l'Angoumois. Alors, qui est-ce qui peut me répondre sur cette question ?
D'abord, bonjour à toutes et à tous. Alors, des débats, si, il y en a eu, bien évidemment, surtout du côté de l'Angoumois. Peut-être pas de la Dordogne, mais du côté de l'Angoumois. Au moment de la création des départements, l'Angoumois est beaucoup trop petit pour former un département seul et beaucoup trop grand pour être intégré à d'autres départements alentour. Il faut savoir que lorsqu'on crée les départements, l'objectif, c'est que chacun puisse se rendre au chef-lieu du département à une journée de cheval. Et donc l'Angoumois, pour avoir son département, va négocier justement avec les régions alentours, avec la Saintonge, avec le Limousin, avec nos amis Poitevin, et également aussi un petit peu avec la Dordogne. Lorsqu'ils vont négocier avec la Dordogne, par exemple, une partie de Dordogne, la Tour Blanche, est une enclave angoumoisine dans le département de la Dordogne qui sera donnée au département. Mais là où c'est rigolo, surtout, c'est pour Aubeterre-sur-Drône. En 1789, Aubeterre-sur-Drône est donc intégré, normalement, dans le département de la Dordogne. Sauf que, malheureusement, le vieux pont médiéval qui passe au-dessus de la Drône n'existe plus, a été détruit. Et les crues régulières de la Drône va pousser le conseil municipal en 1789 à demander de ne pas être intégré dans le département de la Dordogne, mais dans celui de la Charente, parce qu'ils ont peur d'être coupés du reste du département.
C'est vrai qu'un drone, peut-être à l'époque, avec quelques crues qui déplaçaient le lit du ruisseau, hein, parce que, de la rivière, voilà. De la rivière, voilà. Et donc, évidemment, bon, c'est une des raisons pour laquelle le département a été amputé.
Oui.
D'une partie. Alors là, j'ai une carte touristique sous les yeux, et il est bien évident qu'entre Saint-Olé et puis si on remonte, alors il y a vers Angoulême et c'est, ça coupe droit. Hein. Ça coupe droit alors que les autres régions sont quand même un peu plus morcelées, un peu plus édentées. Voilà, alors bon, on parle toujours du Périgord charentais. Alors qu'est-ce qui vous a poussé l'un et l'autre à faire cette étude sur le Périgord ?
Qui nous a poussé à faire cette étude, c'est parce que le Périgord aujourd'hui, tel qu'on le voit, enfin tel que les gens le voient, c'est un Périgord touristique. Mmh. Et ça ne reflète pas du tout le Périgord historique tel qu'il existait autrefois. Le Périgord, c'était autrefois le diocèse de Périgueux. Ça, c'est attesté dans les archives. Et ce qui se passe, c'est que le diocèse de Périgueux était découpé en archiprêtrés, que je ne me trompe pas, et dont deux archiprêtrés sont aujourd'hui dans le département de la Charente. Et sur un troisième archiprêtré, il y a une seule localité donc, qui se retrouve dans le département de la Charente. On parle de l'archiprêtré de Pillac, de Peyrat, qui sont entièrement dans le département de la Charente aujourd'hui, et du village de Combier, qui était dans l'archiprêtré de Goutz, et qui est la seule localité de celui-ci qui est dans le département de la Charente. Tout le reste est resté en Dordogne.
Ah oui. Oui, effectivement, c'est vrai qu'il y a les limites de l'évêché.
Exactement.
Les limites de l'évêché, on parle toujours de limites géographiques, mais c'est vrai que si on se remonte quand même à deux siècles en arrière, il y a évidemment l'évêché. Alors donc, je reviens pas à ma question primordiale, qu'est-ce qui vous a poussé à étudier la partie périgourdine qui se trouve en Charente ?
Alors, justement, comme vient de le dire David, c'était ce côté Périgord touristique. Alors, l'appellation Périgord, en fait, va revenir surtout, c'est dans les années 50-60, lorsque le département, conseil départemental de la Dordogne, va créer l'office de tourisme du Périgord. Et histoire d'avoir quelque chose de porteur, un mot porteur, ils vont ressortir l'appellation Périgord, qui aurait pu d'ailleurs disparaître. Donc, c'est très bien qu'ils le sauvent là-dessus, mais c'est vraiment à des fins publicitaires et touristiques. Et ils parlent de leur département. Sauf que nous, on est en Charente, dans le sud Charente, justement, dans cette partie périgourdine, et on a toujours entendu parler de cette Charente périgourdine. Et on voulait absolument voir d'où ça venait, pourquoi, et l'expliquer. Alors, on parlait à l'instant des limites du diocèse de Périgueux. Il faut savoir que lorsque les diocèses sont créés, ils vont se calquer sur les anciennes civitas, et notamment sur la civitas Petrocor, qui va donner le nom au Périgord. Et ça inclut immédiatement ce sud Charente, avec les archiprêtrés de Pillac, de Péra, et la commune de Combier, qui est dans celle de Goutz.
Et évidemment, ça n'a pas été... pour quitter un peu la limite de la Charente, il y a des... Je crois que c'est du côté d'Excideuil, il y a eu des communes qui ont été mises dans le Limousin, ou en Corrèze, et qui ont demandé après être rattachés à la Dordogne, parce que leur pratique était plus à Excideuil, etc. Et est-ce qu'il y a eu le même cas pour... Ou est-ce que tout le monde a accepté vraiment d'être en Charente, ou est-ce qu'il y a eu des réclamations pour garder l'appellation Périgord ? Ou Dordogne, puisqu'à l'époque, le Périgord...
Alors, de ce qu'on a vu, très peu.
Oui, très peu de réclamations. En fait, le truc, c'est que jusque dans les années 20... on parlait d'une Charente périgourdine. Je vais vous montrer, parce qu'on a retrouvé des cartes postales des années 20, alors je ne sais plus quelle année précisément, mais où on voit Opterre, des cartes postales d'Opterre, maintenant je vous les fais passer, où c'est bien noté la Charente périgourdine. Et c'est ça qui est incroyable, c'est qu'on est en Charente.
Ah oui, la Charente périgourdine, oui, oui.
Exactement.
Il y a beaucoup de textes que vous m'avez passé.
si vous les regardez, on va les faire tourner. Et c'est ça qui est incroyable, et c'est que même dans la presse ancienne, dans les années 20, on va là plus aller du côté de Villebois. Donc Aubeterre était dans l'archiprêtré de Pillac. Et donc là, on va dans l'autre archiprêtré, celui de Péra, où se trouve Villebois-la-Valette, dont on va parler tout à l'heure avec un personnage. Villebois-la-Valette, dans la presse, était considérée comme la capitale du Périgord charentais. C'est noté dans la presse. Et nous avons les coupures de presse, nous avons les archives de presse. Enfin, au moins une déjà, c'est déjà pas mal.
Oui, on m'a fait passer quelques documents comme ça, où il y a marqué Périgord-Charente, ou Périgord-Charentaise, etc.
Mais je les avais mis sur notre groupe Facebook, le Périgord-Charentais.
Oui, oui. Et est-ce que cette appellation existe toujours ou pas ?
Non.
Parce que on entend peu parler...
Non, elle a disparu, cette appellation. Et c'est un peu le combat qu'on voudrait mener, c'est... qu'aujourd'hui, on reconnaisse la Charente périgourdine. Je ne vois pas pourquoi ils n'auraient pas le droit à cette magnifique appellation qu'est le Périgord, eux aussi.
En plus, ce qui est bien, c'est que là, c'est une émission littéraire, donc on a ramené tous nos livres.
Oui, je vois ça, il y a un beau paquet.
Ah oui, et en fait, tous ces livres-là mentionnent des localités charentaises qui étaient comme autrefois dans le Périgord. C'est par exemple, là je vais prendre, je pense que vous devez connaître les livres de Léon Dossal, Histoire du Périgord.
Oui.
Dedans, vous entendrez parler d'Opterre et de d'autres localités. C'est ça qui est incroyable. Et surtout celui-là, je ne sais pas si vous le connaissez, c'est Promenade littéraire en Charente-Limousine de Michel Collat. Et dedans, nous avons une carte.
Oui, j'ai été surpris d'ailleurs sur les documents que vous m'avez fait passer. L'un ou l'autre, justement, où il y a marqué Périgord-Charentais. Je connaissais l'appellation, mais comme ça, ça a vraiment avoir approfondi la chose. Et je ne pensais pas qu'il y avait autant de documents qui rappelaient le Périgord-Charentais.
Et donc Michel Collat avait écrit un livre, donc sa femme était charentaise, et il s'est intéressé sur la Charente-Limousine, parce qu'il y a un morceau du département de la Charente qui faisait partie autrefois du Limousin. Je ne sais même pas si on l'a expliqué, mais le département de la Charente s'est formé sur plusieurs anciennes provinces. Donc la totalité d'Angoumois, une partie du Poitou, une partie de la Saintonge, une partie du Périgord, une partie du Limousin et une faible partie de la Marche.
Ah oui.
Voilà. Et donc Michel Collat, je ne sais même pas s'il est historien, mais il a écrit un bouquin qui s'appelle « Promenade littéraire en Charente-Limousine ». Et dedans, il a dessiné une carte de cette partie du Sud-Charente où il décrit... la partie du Sud-Charente comme étant la Charente périgourdine.
Ah oui.
Et c'est ça qui est juste incroyable. Et au-dessus, nous avons la Charente limousine. Et donc, du coup, avec toutes ces preuves et tout ce qu'on trouve dans les archives, on s'est vachement intéressé sur cette partie du Périgord complètement oubliée, qui est dans le département de la Charente.
Oui. Et vous nous êtes suivis dans cette démarche ou vous êtes que tous les deux pour l'instant Est-ce qu'il y a des personnes intéressées en Angoumois sur l'origine périgourdine de leur terre?
Alors, il y a des personnes qui sont intéressées, notamment des gens qui ont des gîtes, qui nous ont envoyé des commentaires. Est-ce que cette localité faisait partie du Périgord autrefois? Alors, je regarde dans les archives, je dis oui, c'est bon, tout va bien. C'était dans le Périgord autrefois. Et ce qui a été agréable, je pense que vous devez peut-être connaître le magazine Le Picton.
Non.
C'est un magazine super. Et le numéro 270, pardon, qui date de 2022, il y a eu un spécial Aubeterre-sur-Drône. Et notamment, Christian Rémy, qui est un docteur en histoire médiévale, qui va parler d'Aubeterre en disant « Le village s'est nourri de l'histoire de ces deux pays, le Périgord dont il faisait partie à l'origine et l'Angoumois auquel il a peu à peu été rattaché. »
Oui. Mais c'est vrai que j'ai été surpris de voir tous ces documents où il y a marqué Périgord-Charente. J'étais un peu surpris, même les cartes postales, des choses comme ça. Bon, je connaissais vaguement. C'est vrai que le Périgord, c'est porteur.
C'est tout à fait.
Le Périgord, c'est quand même porteur.
C'est ça qui est incroyable, c'est le département de la Dordogne qui a revalorisé cet ancien nom, enfin le nom de cette ancienne province. Ils l'ont fait remarquablement bien. Et le Périgord, aujourd'hui, c'est connu et reconnu dans le monde entier. Et c'est vrai que c'est un nom porte, comme vous venez de le dire, et qui vend aussi.
C'est vrai que le Périgord est connu dans le monde entier. Pour peu qu'on voyage, même en Europe, tout le monde connaît le Périgord. Il y en connaît mieux Sarlat que Périgueux.
C'est vrai.
Non, mais c'est vrai.
C'est vrai parce que... Alors en plus, ce qui est...
Je n'ai rien contre les gens de Périgueux.
Non, on aime tout le monde. Mais,
oui, bien sûr.
Mais c'est vrai que le Périgord que les gens retiennent le plus est celui dans lequel, en plus, ils viennent régulièrement en vacances, c'est toujours le Périgord noir. Donc, ils connaissent Sarlat, le tour de Sarlat. Mais c'est vrai que, malheureusement, c'est un tort. Ils vont rarement dans le Périgord vert. Il y a des villes comme Brantôme qui sont magnifiques. Enfin, tous les Périgords sont très beaux. Mais c'est vrai qu'ils s'arrêtent au noir.
Ce qu'il y a, c'est que Périgord noir, il y a la Dordogne qui passe et il y a des châteaux depuis Gaulle-Jacques jusqu'à la limite du Bordelais. C'est vrai que c'est... Je suis un Sarlat, en fait. Je le précise. Mais pour revenir donc à l'autre bout du département, quand même. Moi, je lis dans la formation du département de la Dordogne, étude géographique qui est de Villepellet. Alors, Villepellet, c'était, comment je pourrais dire, c'était un archiviste, il était aux archives nationales et il est docteur S-lettres. Donc, c'est lui qui a fait ce livre. Et je lis quand même, faute d'une entente intervenue en temps utile avec l'Angoumois, les bases de la démarcation entre les deux provinces sont fixées par décision du comité de constitution du 25 janvier. Règlement détaillé fut arrêté ultérieurement. Voilà. Et puis, entre la Saint-Onge et le Périgord, contigu sur une très faible étendue, il ne pouvait y avoir de difficultés. Il fut convenu que les deux pays garderaient leurs frontières anciennes. Nous croyons intéressant de reproduire les pièces authentiques que je n'ai pas encore inédites qui concernent ces différentes opérations. Alors, qu'est-ce que... Ça remonte à 1790.
Oui. Alors après, il faut savoir qu'en 1789-1790, lorsqu'ils vont faire les départements, ça fait un petit moment que les frontières historiques ont quand même véritablement bougé. Que ce soit l'Angoumois et d'autres, par mariage, différentes manières, ont incorporé des morceaux de territoire des uns et des autres. Et c'est ce qui avait d'ailleurs un petit peu agacé Louis IX, Saint-Louis, parce que sur les diocèses, sur le diocèse de Périgueux, il y avait différentes seigneuries, il y avait notamment... le comté, le futur comté de Périgord, il y avait le comté d'Angoumois qui était en partie dessus, il y avait la vicomté de Turenne, etc., etc. Sauf que on est à l'époque féodale et on rend un petit peu hommage soit au plus puissant, soit à celui qui nous arrange le plus, selon nos intérêts. Et ça va effectivement gonfler Saint-Louis, qui va décider de créer une sénéchaussée, la sénéchaussée du Périgord, qui va d'ailleurs regrouper trois diocèses. Le diocèse de Périgueux, le diocèse de Limoges et celui de Cahors. Pourquoi il prend les autres diocèses pour faire la sénéchaussée du Périgord? C'est parce que le diocèse de Périgueux recouvre finalement que les trois quarts du territoire périgourdin. Donc c'est vraiment pour les incorporer. Et il va mettre en place un sénéchal pour justement surveiller ce territoire. Et à ce moment-là, le Sud-Charente est intégré dans la sénéchaussée du Périgord.
Ah d'accord. Voilà. Ben voilà une explication. Alors, moi, je continue toujours la formation du département de la Dordogne. Voilà ce qu'il est dit, page 35, par exemple. Cette décision portait que la ligne de séparation du département du Périgord avec l'Angoumois passerait entre la chapelle Saint-Robert jusqu'à Bus-sur-Badil, inclusivement pour les départements d'Angoumois, entre Taïja et Busserolles, inclusivement, et pour le département du Périgord, au moyen de ce que l'Angoumois cède au Périgord, premièrement l'enclave de la Tour Blanche, dont on a parlé tout à l'heure, les paroisses de Parcoul, puis Mangou, Chenot, Saint-Aulé et Saint-Michel-l'Écluse, qui s'appelle, je ne sais pas si ça s'appelle toujours Saint-Michel-l'Écluse, le Bost. Alors cette envie fut reproduit dans le projet du 25 janvier, mais il était succès pour que le besoin ne se fît pas sentir d'un règlement plus détaillé. Voilà, alors, continue tout petit peu. Quelques jours après que le décret de formation du département du Périgord eut été rendu, les députés des deux provinces durent se mettre d'accord sur la question de la circonscription de leurs départements respectifs. À vrai dire, nous ne procédons point de procès-verbal de cette convention analogue à ce que nous avons pour le Haut et le Bas, les Limousin, le Quercy, la Genêt et le Bordelais. Donc, ce que je disais au début, il n'y a pas de règlement signé ou contre-signé. C'est-à-dire signé, voilà, par les représentants des partis contractants, mais seulement deux règlements signés par les députés du Périgord, l'autre par ceux de l'Angoumois, qui tous les deux témoignent qu'il y a eu une entente préalable et ne présentent d'ailleurs entre eux que de divergences insignifiantes. Nous reproduisons les dispositions du premier telles qu'elles furent dans le règlement général du 14 février 1790, instrument authentique de la constitution du nouveau département du Périgord. Voilà. Alors, ce qui est curieux d'ailleurs, c'est qu'il parle toujours du département du Périgord et non pas du département de la Dordogne.
Oui, alors au départ, le département devait vraiment s'appeler département du Périgord. Et c'est par la suite où les révolutionnaires ont quand même voulu supprimer le plus possible les anciennes provinces, ces appellations. Et c'est pour ça que nos départements portent les noms des rivières, des massifs, etc. Et donc la Dordogne a été préférée finalement au Périgord.
Voilà, bon, c'est dommage. Je veux dire que de toute façon, le mot Périgord est revenu.
Il est revenu.
Est revenu. Bien, et quelle impression? Alors, on m'a dit que bon, mais les gens étaient peut-être un peu indifférents en Charente sur le fait qu'ils appartiennent au Périgord ou pas. Est-ce qu'il y a quand même une sensibilité parmi les gens ou quelques personnes comme vous qui voudraient être, non pas rattachés au Périgord, mais qui adoptent, quoi, je pourrais dire, la signification Périgord, Angoumois, voilà, si j'arrive à le dire.
Il y a de plus en plus de gens, en fait, ça les intéresse, parce qu'ils redécouvrent l'histoire du département. Comme je l'ai dit tout à l'heure, il s'est formé sur plusieurs provinces, et il y avait plein de gens qui ne savaient pas que le Périgord était plus étendu que la Dordogne actuelle. Mmh. Et d'ailleurs, des morceaux de Périgord, on va en retrouver un peu partout, que ce soit en Charente, en Gironde, dans le Lot, jusque les autres départements alentours.
Dès qu'on passe Grandjac, je crois que le panneau y est plus, mais il y avait un panneau qui indiquait le lieu-dit en Périgord.
Oui.
À un kilomètre de, peut-être pas, juste après la limite du département actuel. Donc il y avait ce panneau, mais je crois qu'il n'y est plus. Oui, il y avait marqué en Périgord. Voilà. Alors je ne sais pas s'il y a la même chose en Charente. Mais
non. Je pense que en Charente, alors il y a beaucoup de gens qui connaissent l'appellation Périgord charentais, etc. Oui. Mais c'est pas une revendication.
Oui.
Ils sont pas là à vouloir se battre en disant bon, on est la partie périgourdine, on veut parler de Charente-Périgord. Ils le savent, ils peuvent en parler entre eux. Quand on parle de documents avec eux, ils nous disent ah bah oui, mais moi, de toute façon, mon grand-père, ma mère, tout ça m'ont toujours dit on est dans le Périgord. ici, donc, mais après, non, ils ne sont pas militants pour faire changer, pour ajouter une cinquième couleur à la carte du Périgord.
Oui, il y a quatre Périgords, il y a quatre couleurs, ça va. Hein.
Les quatre couleurs existent depuis les années 90.
Oui, Oui, c'est récent, oui. À part le Périgord noir et le Périgord
qui
blanc.
Qui est la plus vieille appellation.
Voilà, alors il y a le Périgord pourpre qui est Bergerac, le Périgord vert qui est sur le, comment je peux dire, sur le Limousin, voilà quoi. Et le Périgord blanc, c'est Périgueux. Mais comme vous dites, ça, des années 90, c'est plus touristique.
Ouais. Bah, après, c'est vrai parce que les gens avaient déjà l'appellation Périgord noir en tête, qui existe depuis très très longtemps. Oui. Je crois depuis le Moyen-Âge. Ouais. Et du coup, ils se sont dit, bah tiens, ça marche bien, les gens intègrent la couleur. Et bah, on va créer d'autres couleurs et on va diviser le.
Mais oui.
Voilà.
Voilà, oui, ça a été fait dans ce but. Mais c'est vrai que le Périgord noir, en réalité, on ne sait pas exactement pourquoi ça s'appelle Périgord noir. C'est à cause des forêts, à cause des.
Forêts sombres,
c'est la grande chose. C'est surtout la forêt, c'est pas du tout la truffe, c'est une grosse erreur. Ouais. Quand on parle de la truffe, non, c'est la forêt, les forêts sombres. Oui. Enfin, c'est ce qu'on lit le plus souvent.
Mais la capitale de la truffe, c'est Sorge, je n'ai plus en Périgord noir.
Après, c'est agréable de dire que ça vient de la truffe aussi.
Oui.
C'est bon.
Bon, donc après les limites, alors moi j'ai sous les yeux quand même une liste de vies de bois. Vies de bois de Mareuil, hein, puisque Mareuil, c'est la limite. Hein, c'est la limite. Alors, j'ai appris que le château de Mareuil se visitait.
Tout à fait, ben, tout à fait, on peut le visiter.
Bon. Alors, donc, il y a Villebois de Mareuil, François, alors là, c'est le 15e siècle. Hein. Il y a Villebois de Mareuil, Geoffroy, 15e siècle également. Et Guy de Villebois de Mareuil, 15e siècle. Alors, fils de Jean a perdu des temps à la Rochebeaucourt, à la Rochebeaucourt en partie, et à Lavaur en entier, à la suite du procès que lui intenta Jean II de La Roche, petit-fils de Jean, premier du nom, qui avait épousé Marguerite de Puyvigier. Voilà, bon, alors ça, c'est le passé, 15e siècle. Ça fait un peu loin. Est-ce que vous êtes intéressé à l'histoire passée de cette région?
Ah ben oui, on s'intéresse toujours à l'histoire passée de cette région et de nos régions. Et là, on est sur le 15e, mais Villebois-Mareuil, on peut remonter beaucoup plus loin. Alors, les seigneurs de Mareuil, on en parle au 12e siècle. Mmh. Au 12e siècle. Et on va parler des Villebois-Mareuil après la bataille de Bouvines, au 13e, où Philippe Auguste va donner aux seigneurs de Mareuil, en plus de leur seigneurie, celle de Villebois, d'où les Villebois-Mareuil.
Ah oui, ah d'accord.
Donc on peut remonter plus loin que le...
Non, moi je suis le 9e siècle, mais par exemple, il y a le 11e siècle, il y a Vitabre, Arnaud de Villebois, qui était évêque de Périgueux en 1036.
Oui, mais il y a eu beaucoup... Et ce qui est assez rigolo de Charentais, finalement, avec des postes très importants au niveau de l'Église, évêque de Périgueux, etc. etc.
Ouais. Après la Révolution, quand on a supprimé les communes, tout ça, je crois qu'une partie du département avait été rattachée à Angoulême, tout au moins pour l'Église.
Alors là, pour le domaine religieux, non. Parce qu'en fait, toute la partie charentaise qui était autrefois dans le Périgord sont restées jusqu'à la Révolution française dans le diocèse de Périgueux. C'est-à-dire que toute cette partie-là était rattachée à Langoumois, donc était intégrée dans la sénéchaussée de Langoumois, au même titre que d'autres localités en Dordogne aujourd'hui, comme Saint-Olé, Parcoul, mais sont restées du ressort dans le diocèse de Périgueux. Pour les affaires religieuses. C'est très compliqué, mais il y a les localités, elles n'ont pas changé de diocèse. Enfin, je ne pense pas. Elles sont restées dans le diocèse de Périgueux jusqu'à la Révolution.
Ah, d'accord. Oui. Parce que j'avais une Marcaille, qui est une petite commune à côté de Sarlat, et quand l'église a été terminée, quelque chose comme ça, c'est l'évêque d'Angoulême qui est venu pour la consacrer. C'était pas l'évêque de Périgueux à l'époque, alors je passe en route au 12e, 13e siècle, quelque chose comme ça. Et puis, donc, il y a des Villebois de Mareuil, on remonte au 9e siècle, comme vous disiez, et puis il y avait Bernard Lavalette,
oui.
Dont on évoquait le nom tout à l'heure, et puis il y a également Villebois-Mareuil, Georges, Henri, Marie, Anne, Victor, comte de Villebois-Mareuil. Qui est mort en Afrique du Sud,
tout à fait, avec un parcours un peu un peu incroyable, en fait. Hein. Son frère, lui, déjà, il ne va pas naître du tout dans le coin, Georges Villebois-Mareuil. Il va naître à côté de Nantes, et même si on va en parler, il n'a pas agi, il n'a pas de lien finalement avec la Dordogne ou la Charente, si ce n'est de par son nom. Oui, il a plus d'importance même pour l'Afrique, un petit peu quand même pour la France, parce que après la défaite de Sedan en 1870 et la chute de l'Empire, il va quand même intégrer l'armée de la Loire. L'armée de la Loire, et il reprendra Blois, la ville de Blois. Il sera distingué d'ailleurs pour ça, et plus tard il partira sur ses aventures en dehors de la France, en commençant par le Cochinchine, où son oncle était gouverneur. Après, effectivement, l'Afrique du Sud, où il va se battre contre nos meilleurs ennemis, les Anglais.
Évidemment, c'est ce que je l'ai dit au téléphone.
Oui, c'est ça.
Il a combattu les Anglais, alors donc...
Oui, en Afrique du Sud. Aux côtés des Boers, qui étaient des colons venus en grosse partie des Pays-Bas, et qui étaient en Afrique du Sud. Et c'est au cours de guerre, justement, où les Anglais voulaient prendre le territoire des Boers parce qu'il y avait des mines d'or. Alors bien évidemment, ça intéressait un petit peu tout le monde. Et il avait été recruté, lui, Villebois-Mareuil, comme général, en fait, pour mener cette guerre contre les Anglais. Malheureusement pour lui, il a été tué en 1900 lors d'une bataille, la bataille de Bosshop. Oui.
Bien, mais je crois qu'on va arriver au terme de cette émission. Je vois notre sympathique animatrice, si je peux dire, qui nous fait signe. En fait, quel est votre prénom ?
Emma,
ben voilà. Et votre collègue ?
Louz Mila.
Et voilà. Voilà, on a fait de toutes les présentations. Mais je crois qu'on fera une émission sur ce sujet. Je pense que peut-être les Charentais se rendront compte de cette, comment je pourrais dire, appellation Périgord. Et quant à moi, je vous remercie d'être venu.
Merci. C'est nous qui vous remercions.
Si vous voulez en savoir davantage sur le travail de David et Loïc, rendez-vous sur le site charentepérigord.fr.
C'était Périgord littéraire, une émission présentée par Pierre Martial.